En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti ». Il parcourut donc toute la Galilée, proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Appelés à être, le thème de notre rencontre. Il y a là, je crois, un formidable exercice de décentrement, dont, j'avoue, je suis la principale victime ce soir, puisque l'on me demande de faire l'homélie alors que je n'ai qu'une petit quart d'heure pour la préparer, moi qui d'habitude travaille les textes pendant des heures et des heures avant d'oser en parler. Alors voilà, je partage simplement avec vous ce qui m'est apparu en relisant le beau récit de ce soir. Tout à l'heure, le père Laurence nous rappelait que la vie de Jésus est au fond le reflet de notre vie intérieure. Et je crois qu'effectivement, nous trouvons ici cette tension entre le besoin de recentrement de Jésus et les constants appels des autres auxquels il doit faire face. Cette tension entre les moments de ressourcement, de tranquillité, de méditation dont nous avons besoin dans nos vies et ces requêtes incessantes de nos proches, de ceux qui nous entourent. Voilà que nous les retrouvons exactement dans ce passage de l'évangile de Marc. Au fond, on est tout au début ici de l'évangile. Ce qu'il s'est passé avant, c'est le baptême de Jésus, la tentation, et puis l'appel des quatre premiers disciples, Jacques, Jean, Simon et André. Et puis vient, immédiatement avant notre récit, cet épisode où Jésus enseigne pour la première fois dans la synagogue de Capharnaüm et où, en même temps, il guérit un homme possédé d'un esprit impur. Un esprit impur, pour l'époque, c'est au fond une force démoniaque qui détruit l'humanité de celui qu'il possède. Et on repère, on voit bien à travers les évangiles combien les démons détestent Jésus, parce qu'au fond, ils savent qu'en lui, ils ont trouvé leur maître. « Tu viens pour nous perdre », disent-ils souvent. Et ça me rappelle cette proximité entre le démon et Dieu, me rappelle cette parole de Calvin qui disait quelque chose comme cela, plus on s'approche de Dieu, plus Satan escarmouche. Et il y a quelque chose de fort que nous éprouvons, je crois, tous dans la méditation, c'est qu'au fond, plus on désire s'approcher de Dieu, plus on sent ces forces qui nous écartèlent et qui veulent à tout prix nous séparer de lui. Jésus donc fait face à cet homme impur dans la synagogue de Capharnaüm, et l'étonnant, c'est qu'il le guérit, il guérit l'homme uniquement par le travail de sa parole. Une parole qui fait ce qu'elle dit, qui dit, au fond, d'une façon extrêmement péremptoire, « Tais-toi et sors. Tais-toi et sors. » C'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Parce que je crois que la parole de l'amour, telle que Jésus l'incarne, est une parole qui ne dit pas l'amour, mais qui le donne, qui le fait. Et ici, nous sommes dans un récit qui est au fond la deuxième guérison que Jésus opère dans l'évangile de Marc. Jésus qui vient à la maison de Simon et d'André, on suppose, pour se reposer. Et immédiatement, le voici sollicité. Le récit est sobre, comme souvent les récits de guérison dans les évangiles. Jésus s'approche, il prend la femme par la main et il la fait lever. Évidemment, une image très forte de celle qui est terrassée par la fièvre, par la maladie, et qui est redressée par cette main qui s'approche d'elle pour la faire se lever. Pas seulement d'ailleurs la faire se lever, pour servir. Et vous imaginez bien que les théologiennes féministes se sont quand même interrogées sur cette idée que la femme est juste guérie, mais pour aller servir ces messieurs. Alors, je crois qu'il faut aller un peu plus loin, bien sûr, et au fond, se redire que pourquoi sommes-nous redressés dans nos vies si ce n'est pour un service, si ce n'est pour passer de ce statut d'esclave à celui de sujet responsable des autres. Ce qui m'a frappé dans ce récit, et qui le traverse, je crois, de part en part, c'est la pression constante de la foule et des disciples eux-mêmes envers Jésus. Tout le monde te cherche. Et c'est la réponse que Jésus donne à cela. Jésus reste au fond le maître des événements. Il ne se laisse jamais prendre à l'image, au piège des images que l'on se fait de lui. Et chaque fois qu'il sent qu'on risque de l'enfermer dans ce travail de faiseur de miracles, il dit « partons, partons ailleurs, partons vers le là-bas » dont nous avons aussi parlé ce week-end, parce qu'il y a toujours à dépasser ce travail d'enfermement dans lequel nous mettons nous-mêmes ou les autres nous mettent eux. Il faut aller là-bas, c'est-à-dire là-bas où la bonne nouvelle doit être proclamée. Et Jésus est au fond constamment fidèle à cet appel à l'être, à être qu'il a reçu du Père quand il dit « Mais c'est pour cela que je suis sorti ». Pour cela, c'est-à-dire cette sortie hors du giron du Père, on va dire, c'est justement ce travail de passer d'une existence de foule, comme le disait le Père Laurence, à une existence singulière, particulière, trouver son chemin particulier. Et Jésus nous signifie ceci. Son cheminement incessant, hors de toute installation, donne, je crois, le ton de nos vies. Et je rappellerai simplement que là, dans ce petit récit, nous retrouvons au fond l'appel à être toujours dans l'élan de marcher, et non seulement de marcher nos vies, mais de les marcher en compagnie. Il y a cette très belle image hein, de Jésus sortant de la synagogue de Capharnaüm, accompagné de Jacques et de Jean pour aller chez Simon et André. Marcher en compagnie, marcher en se faisant des compagnons, des gens avec qui on partage le pain quotidien. Ce que je crois nous vivons profondément ce week-end ensemble. Donc appel à être toujours dans l'élan de marcher, appel aussi à être attentif tout en marchant aux sollicitations d'autrui, mais sans jamais nous laisser emprisonner par elles. Vous l'aurez remarqué, Jésus se retire pour prier, mais il ne fait pas non plus de la méditation ou de sa relation au Père un absolu. Il écoute toujours et en priorité l'appel que les autres lui adressent. Donc, marcher en écoutant les sollicitations des autres, mais en ne se laissant pas emprisonner par elles. Et puis, faire la chasse appelle aussi à faire la chasse aux démons qui nous habitent, les démons de toutes sortes qui nous rendent la vie compliquée, et peut-être leur faire la chasse en leur adressant cette parole péremptoire, « Tais-toi, tais-toi et sors ». Il y a la force ici, la force d'une parole qui dit « halte », qui dit « stop ». Et je crois que nous sommes responsables de cette parole envers les forces négatives ou les pensées négatives qui parfois nous habitent. Et puis enfin, appel à faire mémoire de cet appel à être précisément qui nous rencontre et qui dessine la singularité de notre chemin. C'est pour cela que je suis sortie. Demandons-nous. Quelle est la raison pour laquelle nous sommes sortis? Au regard de la foi, tout devenir s'appuie, je crois, sur un venir de. Devenir, c'est venir de. Venir d'une origine qui nous rend vivants, qui nous garde en vie. Si nous sommes au fond appelés à un surcroît de vitalité, c'est parce que nous venons d'une surabondance, du don de la vie. Et de cela, il faut faire mémoire chaque matin.